Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert.
Cette émission a été enregistrée en public à la librairie Priva à Toulouse le samedi 21 février avec Marek Alter pour la présentation de son dernier ouvrage intitulé Le Juif et paru aux éditions Fayard. Marek Alter, merci beaucoup de nous rendre visite ici à Toulouse à la librairie Priva. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pour débuter cette rencontre, je me propose de vous lire moi-même un petit texte qui est l'épigraphe de votre ouvrage. La racine de l'inquiétude juive, c'est cette nécessité où est le juif de s'interroger sans cesse et finalement de prendre parti sur le personnage fantôme, inconnu et familier, insaisissable et tout proche, qui le hante et qui n'est autre que lui-même, tel qu'il est pour autrui. Et c'est signé Jean-Paul Sartre. Alors cette phrase constitue l'épigraphe de votre roman Le Juif, dont nous allons parler aujourd'hui. La question que je me posais, c'est est-ce que finalement cette épigraphe ne serait pas valable pour l'ensemble de votre œuvre, de vos écrits?
Non, il y a des individus, il y a des groupes d'individus qui posent problème à ceux qui ne les connaissent pas. C'est toujours la même chose, c'est l'ignorance qui est à la base de tous les questionnements. Si vous connaissez l'histoire, vous ne posez pas de questions, puisque vous la connaissez. Et quand je suis arrivé en France, en 1950, pour moi, c'était un nouveau monde. C'est un monde, les premiers pays démocratiques, où on pouvait manifester pour la gauche, pour la droite. À l'époque, il y avait des manifs 1er mai. 1 million de personnes dans les rues, à Paris, rien qu'à Paris. Aujourd'hui, quand il y a 3 000, 5 000 personnes, c'est énorme. Les gens manifestent devant leur télé. Et puis, les premiers livres que j'ai lus, peut-être parce qu'il était mince. Je ne connaissais pas Jean-Paul Sartre, mais il y avait un titre, « Réflexion sur la question juive ». Alors, je l'ai lu et il m'a beaucoup énervé. Et Sartre, c'était le philosophe de la liberté, puisqu'il a essayé de parler des libres arbitres, de l'homme est libre. Et puis, il dit là-bas une phrase qui n'est pas tout à fait fausse et en même temps elle est énervante. Il dit que nous sommes ce que nous sommes dans le regard des autres. Je raconte ça dans la Dépêche aujourd'hui. Il n'y a pas si longtemps, il y a un mois, je descends dans le métro. Puis il y a une jeune fille plutôt jolie qui se lève. Je pensais qu'elle venait me dire bonjour. Pas du tout, elle me laissait sa place. Et d'un seul coup, je me suis rendu compte que j'ai vieilli. On ne se rend pas compte autrement. Donc je suis remonté chez moi, je me suis regardé dans la glace. Je me suis dit, au fond, c'est vrai. Donc on est ce qu'on est dans le regard des autres. Mais en même temps, vous perdez votre liberté, parce que c'est l'autre qui décide pour vous. Et si on est juif, on est musulman, on est bouddhiste, etc., si l'autre décide pour moi, alors où est mon libre arbitre? Où est ma liberté? Alors, j'ai trouver son adresse à Jean-Paul Sartre. Il habitait à l'époque rue Bonaparte à Paris. J'ai frappé à sa porte. Il y a un bonhomme, petit bonhomme, zézouillard un peu, avec une voix rock, un peu surpris de voir un jeune homme frappé, inconnu. Il dit, qui êtes-vous? Je dis, je suis, vous ne me connaissez pas, je suis né dans le ghetto de Varsovie. À l'époque, la société, toutes les sociétés occidentales vivaient dans la mauvaise conscience. On venait de découvrir des millions de morts, des cadavres, les images. À Dachau, on voit Montgomery en train de pleurer, parce que les gens ne s'imaginaient pas que c'était possible. Des millions d'individus brûlés volontairement. Donc, quelqu'un... Donc, venir dire « je suis né à Varsovie », c'est comme si je venais avec une Kalachnikov. Donc, il m'a dit « asseyez-vous, qu'est-ce qui vous amène ?» J'ai dit « j'ai lu votre livre, les réflexions sur la question juive. » Et il m'a beaucoup énervé. Il dit « ah bon ?» Elle a expliqué, moi, bon, je ne parlais pas très bien français, donc je lui ai expliqué pourquoi. J'aime pas l'idée que quelqu'un décide pour moi ce que je dois être. Si demain je décide ne pas être juif, surtout avec les juifs c'est facile, puisque les juifs en Afrique sont noirs, en Chine ils sont chinois, aux Indes ils sont hindous, en France ils sont français. Bon, il y a ceux qui ont un petit accent comme moi, mais la plupart, Simone Veil n'avait pas d'accent, ni badinter. Donc, c'est le savoir que vous êtes différent, en quoi vous êtes différent, que vous avez choisi, disons, une religion. Mais si vous n'êtes pas religieux, alors c'est quoi un juif? C'est une religion, une nation, c'est une nation, il y a Israël. Donc les gens sont israéliens. Il y a 2 millions d'Arabes israéliens qui voyagent avec les passeports israéliens. Il y a les Druzes, il y a des chrétiens israéliens. Alors c'est quoi qu'être juif? Alors il me dit, vous savez, moi je suis un goy et je me suis posé toutes ces questions. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Maintenant, peut-être avez-vous raison, il y a des juifs authentiques et inauthentiques. Alors il m'a expliqué, un juif inauthentique, c'est celui qui dépend de l'autre. C'est l'antisémite qui désigne en vous désignant des doigts, en vous disant « sale juif », vous fait être juif. Et puis il y a les juifs authentiques qui n'ont pas besoin d'antisémites, ils se choisissent comme tels. Alors, comment on les voit? Je lui demande. Et là, de nouveau, il m'a énervé. Je me souviens comme si c'était hier. Il dit que ce sont des juifs qui montrent les judaïtés. Ça veut dire, bon, pour lui, c'était des religieux en vérité, qui ont des barbes, des papillotes, des chapeaux. Voilà. Alors, je lui, encore une fois, je lui dis. Mais la moitié des peuples juifs ne sont pas des religieux. Ils se sentent juifs parce qu'ils s'identifient avec une histoire. Et je lui ai cité Staline. Ça l'a fait rire parce que Staline a écrit un seul livre de sa vie. C'est à la demande de Lénine. Lui aussi, il a fait réflexion sur les nationalités. C'est quoi pour lui la nationalité? C'est un groupe humain qui a une histoire commune, une langue commune, une terre commune. C'est pour ça qu'en Union soviétique, il y avait 73 ethnies, et chaque ethnie avait ou une république ou une région autonome. Et dans leur passeport, c'était écrit « Yakout ». C'est-à-dire l'Union soviétique, Yakout. C'était Yakout. Ou Tadjik. Alors, avec les Juifs, il avait un problème, Staline. parce qu'ils avaient une histoire commune, une langue commune, c'était le yiddish, 7 millions de personnes qui parlaient une langue. Ils avaient un théâtre, des journaux et tout, sauf qu'ils n'avaient pas de terre. Alors il a décidé de résoudre le problème en leur donnant un bout de Sibérie, en face de la Chine, sur les fleuves qui s'appellent Amour. Il fallait inventer, mais ça c'est un fleuve qui existe. Vous regardez la carte qui sépare la Chine de la Russie. Et il a envoyé 300 000 juifs là-bas pour construire une région autonome juive. Je suis allé, j'ai fait un livre, et puis j'ai fait un film. Et c'est extraordinaire, c'est un peu comme un Jurassic Park.
Vous parlez du Birovidja.
Birovidja, oui. Tout à fait. Tout est écrit en yiddish et en russe, partout. Dans les écoles, bon, y a très peu de juifs qui restent de ces 300 000 à la création de l'État d'Israël. La plupart sont partis en Israël. Il en reste encore quelques milliers. En tout, il y a 150 000. Ils ont construit une ville propre, pas mal, avec des monuments qui représentent des écrivains, des philosophes juifs. Et à l'école, les enfants chinois ou coréens apprennent le yiddish. c'est comme une blague, mais voilà, il y a des petits enfants chinois qui répètent Aleph, Bet, Gimel, c'est-à-dire l'alphabet juif. Donc, ça. Alors, je raconte tout ça à ça. Alors, il m'a dit, mais avec vous, j'apprends beaucoup de choses. Je dis, mais moi, c'est vous qui m'avez obligé à réfléchir sur la question, parce que vous m'avez énervé. Comme quoi, on réfléchit jamais seul, on réfléchit en face de quelqu'un. C'est l'autre qui vous met sur les rails, et vous roulez vite ou vous ne roulez pas, vous freinez comme vous voulez. Donc, pour revenir à l'histoire de ces livres, aujourd'hui, ça, c'est assez curieux, la question reste entière. Parce que il y avait un génocide des Arméniens, 1915-1916. 1,5 million d'Arméniens qui ont été massacrés. Génocide, c'est un mot qui était créé par Lemkin, un historien polonais, juif, et qui voulait dire la volonté de déraciner complètement un groupe humain, liquider le gène de la molécule même. La différence entre massacre et génocide, c'est que massacre peut être non intentionnel. Vous êtes au volant, vous écrasez quelqu'un involontairement, vous avez tué quelqu'un et vous répondez devant la justice. Mais si vous préméditez la mort de ce quelqu'un, même devant la justice moderne, votre responsabilité devient différente. Donc c'est la préméditation. Et les nazis, par exemple, ont, dans leur texte à Wannsee, dans la banlieue de Berlin, dans laquelle ils ont inventé la solution finale, ils se réfèrent à l'Empire ottoman qui a essayé de faire ça avec les Arméniens. Ils trouvaient ça bien. Dans le texte. Donc, eux, ils avaient un objectif. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, ceux qui qui m'appellerait génocidaire, disons d'abord, le mot n'existe pas dans les dictionnaires. Même petit Robert ou Larousse n'existe pas. C'est ou génocide ou pas. Il n'y a pas de génocidaire. Parce qu'une personne ne peut pas tuer des millions d'individus. Donc, sauf s'il avait une bombe atomique portable, en miniature. J'avais envie, depuis longtemps déjà, expliquer à mes amis c'est quoi qu'être juif.
Alors justement, cette explication et même donc ce roman, quand on, a priori, on lit, on dit, on voit le titre, le juif, on voit votre nom, et dessous, on voit roman. Et on se dit, tiens, pourquoi a-t-il choisi un roman, à la forme d'un roman? Et la question posée de manière peut-être un petit peu plus large, c'est dire, après tout ce que vous avez publié, après tout ce que vous avez écrit, j'allais dire, par provocation un peu, qu'est-ce qui vous a pris d'écrire ce livre et pourquoi maintenant et surtout pourquoi un roman? Quel est l'avantage du roman? On aurait pu s'attendre, surtout en vous écoutant jusqu'à présent, que peut-être vous auriez choisi la forme d'un essai, d'un discours. Est-ce que vous pourriez nous expliquer?
Parce que le roman est basé sur les mots. Mais pas basé sur les idées, mais sur les mots. Et bon, je n'ai pas inventé la forme romanesque. J'adore La guerre et la paix de Tolstoï, Iliade et Odyssée d'Homère, il y avait des écrivains avant moi, et on apprend toujours chez ceux qui vous ont précédé. C'est les ignorants qui pensent qu'ils sont en train d'inventer le monde. Mais le monde a déjà existé. Il existe. Maintenant, à nous d'ajouter quelque chose. Les premiers hébreux s'appelaient Ivrim. En vérité, c'est les passeurs. Ils passent ce qu'ils connaissent et ils repassent à l'autre génération. Et de génération en génération, on a besoin des passeurs, de la connaissance, des valeurs, des principes, hein, qui font que nous sommes toujours là. Sinon, le monde aurait été dépeuplé depuis qu'on se massacre, vous rendez compte? Et puis avec les moyens de plus en plus sophistiqués pour tuer, regardez, et ça ne marche pas. Hein. L'Ukraine, hein. On utilise les drones, on utilise tout, sauf la bombe atomique, on n'a pas encore essayé, si à Hiroshima.
Alors, ce que je voulais vous demander aussi, c'est...
Alors, pardon, roman.
Allez-y. Oui, le roman.
Voilà. Je me suis rendu compte que le roman laisse plus de traces qu'un essai. Parce que c'est la reproduction de la vie. L'essai, c'est vous coller à la vie des idées qui voulaient faire passer, imposer, soumettre. Les romans, vous prenez un bout de un territoire, comme Balzac prend Angoulême. Il commence un roman, Angoulême, dans une imprimerie à Angoulême. Donc il nous raconte comment marchait l'imprimerie à l'époque, mais on est à Angoulême. Donc vous avez un cadre. Et il prend un personnage. Et puis ce personnage les prend par la main, Balzac, et il les conduit. Et il faut se laisser conduire par les personnages qu'on a. Parce qu'on n'invente pas tout, c'est pas vrai. On n'invente pas tout. Il y a Victor Hugo, Jean Valjean, hein, qui est pourchassé tout le temps par les policiers, Javert. D'ailleurs, tous les romans sont de romans policiers, en vérité. C'est comme ça, parce que sinon, on ne les lirait pas. Il faut qu'il y ait un suspense, il faut qu'il y ait un enjeu. Parce que sinon, pourquoi continuer à suivre un personnage qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaîtra jamais? Mais en les suivant, d'un seul coup, on s'identifie. On ne peut pas s'identifier avec une idée, on peut s'identifier avec un personnage. Et vous vous dites, merde, mais j'ai vécu la même situation. C'est vrai, il me ressemble. Et vous, vous avez pris cette situation où, autour de vous, il y a dans mon livre, il y a, en vérité, c'est l'histoire d'un homme qui n'est pas juif. Ça aurait été facile. Si c'était un juif, bon, il n'est pas juif. C'est un Picard. Pourquoi Picard? Parce que j'ai vécu en Picardie. Les champs de betteraves, c'est magnifique. Entre Amiens et Doulon, la plupart des gens ne savent pas où se trouve Doulon. Mais Amiens, oui, une des plus belles cathédrales gothiques du monde. Proust appelait cette cathédrale la Bible d'Amiens, qui est gardée par deux sculptures de rois juifs. Curieusement, ils sont toujours là. Salomon, c'est celui qui a donné la gloire à Israël, et de l'autre côté, Hérode, c'est lui qui a enterré Israël. C'est la destruction des deuxièmes temples. Donc, il y a un cadre. On sait où on est. Il y a un petit catholique qui est né, qui est baptisé à la cathédrale. Son père est un notaire à Abbeville. Et il a une petite infection sur son zizi. Donc, on l'opère, on lui coupe. Et voilà, circoncis. Et ses petits camarades à l'école maternelle voient ça, ils disent, mais tu es juif? Il dit, non, je ne suis pas juif. Mais si, regarde, tu es juif. Et après, à l'école, au lycée, et même à l'université d'Amiens, alors là, ça devient un private joke, on rigole, les copains, ah, les juifs, où il est, les juifs? Ah, il est en retard, les juifs. Bon, mais il n'est pas juif. Et j'ai trouvé que cette idée qui me trottait dans la tête depuis des années, je pense, peut-être je me trompe, est plus forte qu'à raconter encore une histoire d'un juif persécuté. Parce que lui, il est persécuté parce qu'il est juif, mais il n'est pas juif.
D'accord. Donc c'est la force du roman, c'est la force de l'histoire. Alors Marek, si vous permettez, j'aurais une petite observation à vous faire sur le sujet tel qu'il est présenté. Parce que effectivement, vous dites, il subit une opération chirurgicale qui semble être de notoriété publique. Et on se demande comment se fait-il que tout le monde le sache et que ça le suive. On voit la symbolique, hein. On voit très bien la symbolique. Non, c'est pas ce que je veux dire.
Maternelle, ils vont faire pipi ensemble. Ils se regardent, ils disent tiens, ton zizi est différent. C'est comme ça que ça commence. Quelle est la différence entre quelqu'un, il a les cheveux blancs. Moi, je n'ai pas de cheveux blancs. Il y a une différence déjà. Ce sont des petites choses qu'on remarque. Vous portez des lunettes, moi je ne porte pas de lunettes, et ainsi de suite. Bon. Donc, et après, ça devient une blague qui suit la personne. Alors, au début, il n'est pas mécontent, parce qu'il est différent. On les différencie. Et puis, il travaille dans au Quai d'Orsay. Il s'occupe des dossiers ultra secrets et deux dossiers disparaissent dans une sacoche bleue. Et il se retrouve dans la peau d'un Dreyfus 100 ans plus tôt, qui lui travaille au ministère de la Défense, où un bordereau disparaît. Alors quand quelque chose disparaît, on cherche les responsables. Et les responsables, c'est celui qui est différent. C'est les juifs.
Et c'est la notion de bouc émissaire qui remonte.
Alors, je ne vous ai pas dit bouc émissaire, j'ai oublié, en route. Donc, Abraham, j'ai fait une petite digression, parce que je ne vais pas vous laisser sur votre faim. Donc, Dieu met en... Il va éprouver l'amitié ou la... disons la foi d'Abraham. Abraham a attendu longtemps pour avoir un fils. Sarah, j'ai fait un livre sur Sarah, on lui annonce, l'ange Gabriel lui annonce qu'elle aura un fils, elle a déjà 90 ans. Et alors elle se met à rire. C'est pas par hasard que son fils s'appelle Isaac, en hébreu, Yitzhak, Tzachok, ça vient d'un rire, un fils qui est né d'un rire. Bon. C'est pas mal d'être né d'un rire. Voilà. Et alors Abraham, il est fier, il a enfin un fils. Bon. Et Dieu lui dit, maintenant tu vas le sacrifier pour montrer que tu... Même et tu crois en moi. Et Abraham prend son fils, la corde pour les attacher, un grand couteau. Vous allez au Louvre, il y a plein de tableaux de Jordan, etc. On voit Abraham avec les gosses qu'il traîne. Hein, bon. Et puis, au moment où il lève le couteau, l'ange Gabriel l'attrape par les bras. Il dit non, non, non. Dieu n'a pas besoin des sacrifices humains. Il voulait seulement voir jusqu'où tu irais. Mais si tu veux sacrifier quelque chose ou quelqu'un pour ton Dieu, le voilà, il se retourne, il y a un bouc. Et il sacrifie le bouc. C'est bouc émissaire. Ça veut dire que c'est le bouc qui remplace celui qui aurait dû être sacrifié. Donc, les Juifs ont toujours ces boucs qui attendent à être sacrifiés dans quelque chose qui ne va pas.
Et le héros donc du livre, qui s'appelle Jean David, se retrouve dans la même position, c'est qu'il devient finalement, parce qu'il est juif, parce qu'il est dit juif, il devient le suspect parfait.
Il est le suspect permanent. Alors, il y a donc cette histoire policière qui m'a amené à me documenter sur tout ce monde souterrain qu'on ne voit pas et dont on ne parle pas dans la presse et qui rapporte beaucoup d'argent. Maintenant, on parle beaucoup de narcotrafiquants parce qu'il y en a à Marseille, on tue pour quelques grammes de trucs, mais... Ce n'est pas les narcotrafiquants qui rapportent le plus d'argent, c'est les armes. Là, il y a encore le Parlement européen a voté 400 milliards pour l'achat d'armes, parce que dans 4 ans, peut-être, Poutine va envahir la France. Pourquoi est-ce que Poutine va venir envahir la France? Les Russes étaient déjà sur les Champs-Élysées après la défaite de Napoléon. Et ils nous ont laissé quoi? Les bistrots. C'est un mot russe. Vite, parce qu'ils descendaient de leurs chevaux. Allez, pour prendre une vodka, ils disaient vite, vite, bistrot, bistrot. Et c'est devenu un bistrot. Et ils sont rentrés chez eux. Ils n'ont pas besoin de la France. La France, c'est loin pour eux. Bon. Mais, vous savez, à Bruxelles, où il y a le Parlement européen, il y a 222 groupes de lobbying pour travailler auprès de tous les députés pour qu'ils votent non pas les réarmements de l'Europe, mais pour acheter les armes allemandes, américains, israéliens, etc. Parce que c'est de la marchandise, ça fait gagner beaucoup d'argent. C'est des milliards et des milliards et des milliards. Et c'est dangereux, pourquoi? Parce que quand on achète les armes, à un moment donné, on les utilise. On ne peut pas fumer une bombe, parce qu'on saute avec la bombe. Donc, j'ai appris ça, donc je partage, c'est une partie de mon livre. Et ça, c'est le côté policier. Et ce pauvre Jean-David Dupuis, puisqu'il est persécuté comme juif et il n'est pas juif, il commence à s'intéresser à ce judaïsme. C'est quoi déjà cette histoire, cette maladie qui me poursuit? C'est quoi? C'est pas seulement être circoncis. Et il rencontre dans le train un rabbin par hasard, s'appelle Levin. D'ailleurs, ce rabbin existe, un copain, Moshe Levin. Ça l'a fait beaucoup rire, parce qu'on prend des noms des gens que vous connaissez, vous n'inventez pas, les noms existent. Voilà.
Justement, c'est les questions que je voulais vous poser, parce qu'il y a donc le nom du rabbin Levin, il y a l'ami de Jean-David qui s'appelle Simon Bernard, et même simplement le prénom du personnage principal, Jean-David. Il y a du symbolique dans le choix de tous ces prénoms.
Toujours. Mais les prénoms, ça s'impose. C'est drôle. C'est-à-dire, vous prenez pas un dictionnaire des prénoms. Mais ça s'impose. C'est drôle. C'est ce que vous me posez comme question. Quand vous décrivez un personnage, d'un seul coup, un prénom arrive pour coller au visage de ce personnage. Vous savez, moi, dans mon passeport, j'ai deux prénoms. Un qui n'est pas le mien. Quand nous sommes arrivés avec mes parents en 1950 en France, il y a un fonctionnaire qui s'était trompé. Il a oublié Marek, il a mis Aaron. Et Aaron, j'aime pas beaucoup parce que c'est le frère de Moïse qui a fabriqué le veau d'or. C'est pas quelqu'un qui m'inspire. Et je me suis battu pendant 30 ans. Et grâce à Simone Veil, quand elle était ministre de la Santé, elle a compris là, ma préoccupation, que j'ai récupéré mon prénom de Marek. Alors j'ai Aaron Marek, prénom usuel, alter. C'est extraordinaire le prénom, c'est pas banal. Et Freud, il disait qu'en changeant le nom, vous changez de destin.
Alors, à propos de dessin, on voit dans le roman que plusieurs fois Jean-David croise le rabbin, Levin, et que, comme par hasard, il le croise une fois, une deuxième fois, et qu'à chaque fois, il y a un échange, mais c'est un échange qui promet d'être poursuivi quelque part, et effectivement, ça se poursuit. Donc, c'est quelque chose que vous avez construit, cette évolution.
Oui, parce que je voulais quand même expliquer à mon personnage, et à travers lui, à mes lecteurs, c'est quoi que le judaïsme? C'est quoi? C'est une philosophie, la manière d'être, etc. Et il y a Goethe, le grand poète allemand, l'auteur de Faust, a dit une chose très juste, jolie et juste. Einstein disait que quand une formule est jolie, elle est juste aussi. Automatiquement. Il a dit que les juifs sont les thermomètres du degré d'humanité de l'humanité. Quand la température monte, c'est que l'humanité ne marche pas. Alors, Hitler a essayé de casser les thermomètres. Comme ça, on n'a même pas besoin de regarder. Ça y est, il n'y a plus de thermomètre. Mais c'est vrai, parce que ce bouc émissaire est là tant que le monde ne sera pas juste, ou c'est lui qui est un autre monde dont rêvait le Christ, c'est-à-dire un autre royaume, on aura toujours besoin d'un bouc émissaire. Alors, il y aura toujours d'autres boucs émissaires. Il y a les Tutsis. 900 000 Tutsis massacrés en une semaine avec des couteaux, les machettes. Vous vous rendez compte? On n'avait même pas besoin des faux crématoires.
Alors, dans ce roman, vous saisissez, enfin, vous créez l'occasion d'essayer d'expliquer ce qu'est l'identité juive, et ce qui fait que Jean David, en rencontrant plusieurs fois le rabbin, s'engage dans une quête spirituelle, et il était bien loin finalement de cette quête spirituelle pendant longtemps dans sa vie. Donc c'est un moyen pour lui d'essayer d'être plus attentif à cette question juive, à ce qui se passe autour de lui, et il va même mener des investigations assez loin et s'apercevoir qu'il avait lui-même des ancêtres juifs.
Loin. Ça aussi, oui. Bon, là j'ai fait exprès, parce que les vrais antisémites cherchent, ça vient de l'époque des rois catholiques d'Espagne qui cherchaient la pureza del sangre, la pureté du sang, qui était reprise d'ailleurs par les nazis. Quand vous trouvez un ancêtre qui avait du sang juif, c'est que vous n'étiez pas pur. Donc, on vous envoyait à Buchenwald, à Sobibor ou à Auschwitz. Bon, donc, je voulais montrer qu'il n'y a pas de race pure, de peuple pur. D'ailleurs, le peuple qui ne se mélange pas meurt, parce qu'ils finissent par marier entre les cousins, les frères, les sœurs, etc. Et ça disparaît. Automatiquement, quand les croisés partent à la conquête de Jérusalem pour libérer le tombeau du Christ, ils violent les femmes musulmanes en route, juives. Aujourd'hui, quand les Russes ont pris Berlin, ils violaient toutes les Allemandes. Donc ces Allemands qui aujourd'hui ont peur d'invasion russe sont pour la plupart d'origine russe. Et c'est bien comme ça, parce que l'humanité, c'est l'humanité. Autrement, on aurait dit que l'humanité est faite des hindous. Ils sont déjà à 1,5 milliard. Ça y est, c'est bon.
Alors, vous allez au-delà de cette idée, puisque votre livre, quelque part, illustre comment les sociétés fabriquent des juifs, entre guillemets, et vous parlez de l'antisémitisme comme un mécanisme de projection, mais pas d'une réalité objective. Et il y a deux phrases qui m'ont beaucoup plu dans ce que vous dites. Quand vous essayez de définir le racisme, vous dites « Le racisme, c'est la haine de l'autre parce que dissemblable. L'antisémitisme, lui, exprime la haine de l'autre parce que semblable. » Ça, c'est très, très, très fort, très lourd.
Oui, mais c'est... En plus, je pense que c'est juste. Parce que l'autre... C'est quoi l'autre? C'est quelqu'un qui n'est pas moi, bien sûr. Alors, à partir de quel moment on le déteste? Parce qu'il mange autre chose que nous mangeons. Même Jacques Chirac, que j'aimais beaucoup, vous vous souvenez à l'époque, quand il a visité une cité où il y avait beaucoup d'immigrés, il a dit, je comprends que certaines odeurs des cuisines qui n'est pas la nôtre peuvent indisposer la plupart des habitants de cette cité. Ah oui, on a découvert couscous il n'y a pas si longtemps. Puis aujourd'hui, on mange la pizza, aujourd'hui. Hein, les sushimi, tout ça. Hein, nos parents, nos grands-parents ne mangeaient pas ça. C'était un autre monde. Et puis, on a adopté tout ça. C'est devenu nous. Hein, quand j'ai faim, j'appelle mon type qui m'apporte des sushis. C'est un Algérien. Il fait des sushis, des très bons sushis, comme quoi, et il nourrit un juif. Bon, donc, mais ça, on voit que c'est différent. Un Africain est un Africain. Un Hindou, on voit qu'il est un Hindou, le Pakistanais, etc. À Paris, il y a tout un quartier autour de la gare du Nord, tout est écrit en ourdou. C'est la langue de Pakistan, etc. Un juif, on ne voit pas qu'il est différent. Et c'est ça qui fait souvent peur à ceux qui cherchent un bouc émissaire. On ne voit pas. Ils ont même des noms différents. C'est-à-dire qu'ils ont des noms comme tous les Français. Ils ne sont pas tous des Lévi, des Cohen, etc. En Pologne, il y avait une femme écrivain, Eliza Ozeszkova, elle a eu le prix Nobel, avec un nom comme ça, qui aurait cru hein, qu'elle avait une mère juive. Donc, et c'est ça aussi, tout ce qui est caché fait peur. Aujourd'hui encore, dans les villages en Pologne, quand un enfant ne veut pas dormir, on lui dit « Si tu pleures, le juif barbu viendra te prendre. » Et l'enfant prend peur. Et quand il grandira, il va raconter ça à ses propres enfants. Donc, il y a... Les mythes sont très difficiles
à effacer
de notre mémoire.
Et vous parlez de mythes, on pourrait parler de fantasmes, on pourrait parler de préjugés aussi.
Des préjugés, oui, c'est vrai. Nous, quand on va aujourd'hui à Auschwitz, on ne voit rien. On ne voit rien. Hein? Je me souviens, François Hollande à Auschwitz. On a traversé les allées, c'est propre, c'est nettoyé, c'est un musée. Il y a des jeunes gens avec des petits drapeaux sur lesquels c'est marqué espagnol, français, allemand, russe, polonais. Ça veut dire ce sont des guides et qui explique ce qui s'est passé là dans la langue des visiteurs. Et il y a des autobus qui arrivent constamment, visiteurs qui vont visiter Auschwitz. On ne voit rien. Moi, j'ai même proposé, ça a beaucoup énervé mon ami Simon Veil, qu'on introduise des voies, parce qu'il y a des maisons en briques rouges. Ce sont des stalags numéro 24, c'était les stalags français. Et j'ai dit, il faudrait mettre des voix qui sortent, que les gens qui passent entendent des cris dans les différentes langues pour comprendre qu'est-ce qui s'était passé là. Alors, ce que je voulais dire, quand on va à Auschwitz, nous amenons avec nous ce que nous savons. Et si nous savons un peu plus, on frémit plus que ceux qui ne savent rien, qui disent « Ah tiens, oui, c'est là, oui, où sont les faux crématoires, ont été détruites par les Allemands quand l'armée rouge avançait, etc. Donc il faut commencer à expliquer, ça ne va pas. C'est très difficile de préserver la mémoire. Parce qu'il arrive un moment où la mémoire devient l'histoire. Alors il y a des livres d'histoire, Michelet, pour les Juifs, Jules Isaac, il y a des livres magnifiques d'histoire. Renan.
Alors, puisque vous parlez de mémoire, dans le parcours de Jean David, on voit qu'il s'avance dans une quête spirituelle et il s'avance aussi dans un phénomène un petit peu étrange qui est l'appropriation d'une mémoire qui ne pensait pas être la sienne. Et donc la question qui se pose, c'est peut-on vraiment hériter d'une mémoire qui n'est pas la sienne et dans son cas, qui va le conduire dans la réflexion contre cette mémoire collective et donc peut-être qu'il va adhérer, faire partie de la communauté.
Et, bon, je ne vais pas raconter la fin des livres, mais c'est vrai qu'à la fin, il abandonne. C'est-à-dire qu'il devient ce que les autres voulaient qu'il soit. Il devient juif. Et c'est vrai que, d'ailleurs, ça vous l'avez, il y avait un très beau film de Lozay avec Alain Delon, Monsieur K. Un type, Monsieur Klein. Il s'appelait Klein, le pauvre, il était catholique, Klein, mais il s'appelait Klein. Alors les Allemands pensaient qu'il était juif et il se retrouve au Veldiv avec tous les juifs et il est déporté avec tous les juifs et il meurt comme juif. Donc, mais il assume quand même dans les films de Lozay, il assume puisqu'il aurait pu s'échapper, mais il s'identifie avec ces gens condamnés autour de lui qui s'appellent Rosenberg, Rosenschwanz, etc. Ouais, et lui, il s'appelle Klein. C'est un nom maudit. Bon. Mais c'est une réflexion, c'est-à-dire à quel moment les hommes accepteront les autres qui sont dans leur diversité. C'est ça. Ça veut dire qu'il y a même là, il y a les racismes qui régnaient en France. Nous vivions pendant 50 ans, c'était 50 ans bénis d'une certaine manière. Parce que les gens vivaient dans la mauvaise conscience. Ils savaient à quoi ça aboutit quand on n'accepte pas l'autre différent. Hein. Alors c'est les faux crématoires, c'est bon. C'est suivi d'une amnésie générale, parce que bien sûr, il y avait très peu de gens qui reconnaissaient d'avoir participé à ces massacres. Et puis, il y a ceux aussi qui ont sauvé. Moi, j'ai fait un film sur les justes. Il y a quand même, il ne faut pas oublier qu'en France, avant la guerre, il y avait 300 000 juifs et 200 000 ont été sauvés par des simples Français, des petits paysans. Ça veut dire, plus on montait dans l'hiérarchie, même dans l'Église, hein, les petits curés sauvaient les juifs. Mais les évêques, les cardinaux, eux, ils ne s'engageaient pas.
Oh, sauf peut-être à Toulouse, le cardinal Saliège, quand même.
Oui, à Toulouse, c'est vrai, c'est juste. J'en parle dans mon film, voilà. Tout à fait.
Marek, je voulais vous demander, au global, ce roman, Le Juif, on doit le considérer comme un message d'alerte, d'espoir, de compréhension ?
Moi, je suis un optimiste. Là aussi, Simone Veil n'était pas d'accord parce qu'elle trouvait que les optimistes sont morts dans le four crématoire elle est pessimiste, ont survécu en Amérique. Vous savez, Primo Levi, qui j'aimais beaucoup, c'est un petit chimiste de Turin qui s'est retrouvé à Auschwitz et il a écrit quelques livres et est devenu célèbre. Et il raconte qu'à Auschwitz, il partageait un matelas avec un maçon italien communiste. Il était là parce qu'il est communiste, pas parce qu'il est juif. Et lui, Primo Levi, il était malade, il n'arrivait pas à se lever avec sa gamelle pour aller chercher un peu de sous. Et c'est le maçon qui prenait sa gamelle, il allait et il lui mettait dans la bouche une cuillère de sous tous les jours, tous les jours. Et qu'est-ce qu'il dit, Primo Levi? C'est quelques cuillerées de soupe qui lui ont sauvé la vie. C'est le geste. Dans un monde où on avait l'impression que l'humanité avait disparu, il y avait quelqu'un qui lui rappelait que la solidarité, ça existe. Et je trouve ça beau. C'est-à-dire dans ces juifs qui sont solidaires de ce type qui n'est pas juif et qui les sauve chaque fois quand on les persécute. Et qui les soigne. Bon. Et il se crée quelque chose d'important. Moi, je trouve que, vous savez, le mal absolu, le mal ne se lit pas sur le visage des gens. C'est après coup. Je ne sais pas si vous avez vu un film, si vous n'avez pas vu, ça vaut la peine de voir. Nuremberg, où il y a un face-à-face entre Goering et un psychanalyste américain. Sous le visage de ces 32 assassins, les autres étaient déjà morts, ça ne se voyait pas qu'ils étaient des assassins. Ça ne se voit pas. Et c'est pour ça d'ailleurs. La Bible, c'est vraiment un livre extraordinaire. Caïn, qui tue Abel, il a un visage d'ange. Alors, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il lui fait graver un signe sur le front pour qu'on sache que c'est Caïn. Autrement, on ne l'aurait jamais reconnu. Jamais. Bon. Cela veut dire que nous avons même les gens, même des assassins, ils ont quelque chose d'humain en eux. Il faut seulement les faire surgir. Et je termine avec ça, parce que vous êtes à la dernière page. Est-ce que, en parlant avec des assassins, on les justifie, on les valorise, ou on fait naître en eux quelque chose qui était caché et qui peut être utilisé à un moment donné? On ne peut pas tuer tous les méchants.
Donc c'est sur cette note d'espoir, finalement, que vous pouvez conclure. Et je voudrais vous poser une dernière question. C'est, il y a quelques années, vous avez écrit un livre qui est « Je rêvais de changer le monde », hein, oui. C'est ça. Et alors donc, aujourd'hui, est-ce que c'est toujours le cas?
Oui, bien sûr. Sinon, pourquoi exister? Pourquoi se battre? Pourquoi aimer? Pourquoi manger? C'est pour améliorer ce qui est, bien sûr.
Parfait. Marek Alter, merci beaucoup de nous avoir présenté ce livre et d'avoir développé ces idées que vous soutenez depuis si longtemps. Merci.
Merci à vous.